le centre même de notre vie. C'est là que Dieu veut déposer son amour, sa paix, son pardon, sa vérité, n'est-ce pas vrai? Le psalmiste disait, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Oui, ouvrons encore nos cœurs et laissons-le agir au milieu de nous. Comme nous l'avons dit, nous allons prier après pour tous les malades. Mon message ne sera pas trop long. Et nous prierons ensuite pour toutes les personnes qui le désirent. Et le Seigneur, dans sa compassion, va toucher beaucoup de gens. Le croyez-vous?
Oui.
Alléluia. Mais regardons à lui, mes amis. Moi, je n'ai jamais guéri personne. Un serviteur de Dieu n'a jamais guéri qui que ce soit. Jésus seul est celui qui guérit. Amen. La guérison vient de ses meurtrissures. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Gloire à son nom. Le dernier message que je voudrais apporter est celui-ci. Après avoir parlé de la bénédiction que le Saint-Esprit apporte, de la puissance que le Saint-Esprit apporte dans nos vies, il y a une question qui se pose toujours et devant laquelle nous sommes toujours confrontés. Comment peut-on perdre cette puissance? Car ce n'est pas le tout de recevoir la puissance de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? J'allais presque dire, il est plus facile de recevoir que de garder la puissance de Dieu. Recevoir la puissance, c'est une grâce, c'est un don, n'est-ce pas vrai? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous croyez, si nous croyons tout simplement, nous recevons ce don. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons qu'à croire. Mais quant à garder cette puissance, ça c'est autre chose. Et c'est là le problème avec beaucoup de chrétiens et aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Pourquoi certains perdent leur puissance? Ce sera le titre de mon message. Pourquoi certains perdent leur puissance, aussi bien les prédicateurs que les chrétiens? Et ce message, je me le prêche à moi-même cet après-midi, car si je ne mets pas en pratique ce que je vous dis là, eh bien je peux perdre ma puissance comme n'importe lequel d'entre nous. Pourquoi certains perdent leur puissance? Et alors en partant d'ici, vous devez faire attention à ce que vous avez reçu et ne pas perdre ce que vous avez reçu. Ne pas retourner dans votre routine d'avant, dans certaines habitudes qui ont fait que vous n'avez pas toujours gardé ce que Dieu vous donnait. Il y a certaines mauvaises habitudes que nous devons mettre de côté si nous ne voulons pas perdre notre puissance. Car Dieu, dans sa grâce, nous bénit, nous renouvelle. Mais bien souvent, nous perdons ce que Dieu nous donne. Mais sa volonté n'est pas que nous perdions ce qu'il nous donne. Mais au contraire, il veut que ce que nous avons reçu, non seulement nous le gardions, mais que ce que nous avons reçu grandisse, prospère et porte du fruit. Amen. Et que cette puissance, loin de diminuer, augmente au fil de nos journées et de notre vie ici-bas. Mais pourquoi certains perdent leur puissance? C'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous. Si nous prenons attention à ces paroles, alors nous garderons ce que Dieu nous a donné et nous le ferons s'y fructifier. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner sept raisons pourquoi certains perdent leur puissance. J'aimerais qu'on lise 2 Timothée 1, 6 et 7. 2 Timothée. Timothée commençait aussi à perdre sa puissance. Et l'apôtre Paul s'en est rendu compte. Et il exhorte son enfant en disant, 2 Timothée 1, verset 6. Et 7 et 8. C'est pourquoi Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ou on peut traduire aussi un esprit de crainte, un esprit de lâcheté, ou un esprit de frayeur. Voyez-vous, ce n'est ni de la crainte, ni de la timidité, ni de la lâcheté, ni de la frayeur que nous avons reçu, que tu as reçu, Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre du Seigneur, à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu, voyez-vous ? Dans la vie de Timothée, il y avait des fuites. Des petites fuites commençaient à se manifester, ce n'était pas grand-chose. D'abord, on laisse endormir ce que Dieu nous a donné, et puis petit à petit, c'est les fuites, après c'est les grosses fuites, et après, c'est vraiment le désastre. Et l'apôtre l'exhorte à ranimer ce qu'il a reçu. Un deuxième passage, Éphésiens 4:30, concernant notre attitude par rapport au Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, 29 déjà, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas vrai? Nous pouvons l'attrister. Nous devons donc avoir une attitude qui convienne à la présence du Saint-Esprit en nous. Et nous devons veiller à cela. Un troisième passage, 1 Thessaloniciens 5:20. Juste un peu avant, il est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, l'esprit est comme un feu que l'on peut éteindre. Vous pouvez éteindre, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit disparaît de vous, parce que si le Saint-Esprit s'en va, vous n'êtes plus enfant de Dieu, n'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit reste toujours là, puisque vous êtes enfant de Dieu. Mais vous pouvez éteindre le Saint-Esprit, cela veut dire que vous pouvez éteindre le feu qui est là, la flamme que Dieu vous a donnée, votre zèle, les dons que Dieu vous a donnés. Vous pouvez, le ministère que Dieu vous a donné, vous pouvez éteindre cela. Pourquoi certains perdent leur puissance? Ceci est extrêmement important dans la vie de beaucoup de chrétiens, comme dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous avons vu, et vous l'avez remarqué comme moi, c'est pas quelque chose de spécial que je vous dis, combien ont très bien commencé, n'est-ce pas vrai? Prenons l'exemple de certains chrétiens. Alors conversion, une conversion extraordinaire, baptisé dans le Saint-Esprit, des dons merveilleux. Vous allez les voir un an après. Il n'y a pratiquement plus rien du tout. Et cela se répète bien souvent dans beaucoup de vies, n'est-ce pas vrai? Et même certains sont aujourd'hui comme s'ils n'avaient jamais reçu la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, dans leur vie, ne fait aucune différence. C'est une tragédie quand le baptême dans le Saint-Esprit, dans notre vie, ne fait pas une différence avec quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Certainement. Donc vous voyez, il faut vraiment que ce que le Saint-Esprit vient faire en nous produise des fruits évidents et que nous puissions vraiment garder cette puissance. Pourquoi certains perdent leur puissance? Alors voyons, premièrement, première raison, nous perdons notre puissance lorsque nous faisons des compromis avec le monde. Amen. Je répète, nous perdons notre puissance lorsque nous faisons des compromis avec le monde. Un exemple évident dans l'Ancien Testament, vous le devinez comme moi maintenant, un homme qui a très bien commencé, qui avait les cheveux longs, et puis qui a eu les cheveux courts, et qui a eu les cheveux longs après, c'était qui? Samson. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il a fait des exploits extraordinaires, n'est-ce pas vrai? Quel exploit n'a-t-il pas fait? Avec une mâchoire d'âne, il a détruit des multitudes d'ennemis à cause de l'onction qui était sur lui. Mais après, vous le savez comme moi, il a commencé un peu à faire des compromis. Il y a eu plusieurs femmes dans sa vie. Et une fois, j'avais lu une méditation, il faudrait que je vérifie ça. Il y a eu trois femmes plus ou moins dans la vie de Samson. Et puis, le prédicateur disait que ces trois femmes correspondent à la chair, au monde et à Satan. Aux trois ennemis qui attaquent le chrétien rempli du Saint-Esprit et le prédicateur rempli du Saint-Esprit. Et alors avec Dalila, naturellement, vous savez ce qui s'est passé. Mais ceci pour vous dire que nous devons veiller à notre comportement dans ce monde. Un jour, une jeune fille, oui, est venue voir Moody, vous savez, le fameux prédicateur Moody. Elle venait de se convertir. Alors, elle est venue dire... Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour abandonner le monde? Elle venait de se convertir. Alors, elle avait une question à poser. Qu'est-ce que je dois faire pour abandonner le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prédicateur lui dit, tu n'as rien à faire. Tu vas faire une chose. Rends témoignage autour de toi maintenant que Jésus-Christ est ton sauveur. Confesse publiquement que tu es une nouvelle créature. Et tu verras tout de suite, ce n'est pas toi qui vas abandonner le monde, c'est le monde qui t'abandonnera. Alléluia! Amen. C'est le monde qui t'abandonnera. Pourquoi est-ce que bien souvent le monde nous attaque? Parce que nous n'avons pas une attitude franche et claire dans le monde. Amen. Il faut qu'on nous regarde avec des jumelles pour voir si vraiment on est des enfants de Dieu. Celui-là, un chrétien. Mais il faut vraiment que je mette des jumelles et encore des spéciales. Qu'est-ce que le monde? On peut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que le monde? J'ai noté une pensée de John Wesley, et je crois que ça résume bien ce qu'est le monde. Voici ce qu'il dit. Tout ce qui refroidit mon amour pour le Seigneur est le monde. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia. Tout ce qui refroidit mon amour pour le Seigneur, c'est le monde. Si vous faites quelque chose qui refroidit votre amour pour le Seigneur, ça c'est le monde, c'est un compromis avec le monde, vous devez l'abandonner. Si vous avez des relations avec quelqu'un, et ce quelqu'un refroidit votre amour pour le Seigneur, vous devez abandonner cette personne. Après avoir rendu témoignage, vous devez dire, maintenant c'est terminé. Il faut avoir le courage de prendre des décisions dans ce domaine-là, c'est important. Combien perdent leur puissance parce qu'ils ont encore des petites attaches avec l'ami par-ci, l'ami par-là. Ah, c'est pas grand-chose, mais comme on l'a vu hier, vous savez, c'est la mare hein, qui nous retient encore liés au bord de la berge. C'est une petite corde, c'est rien du tout. Mais en attendant, avec cela, on n'avance plus. On n'avance plus. Seigneur, je veux garder ce feu en moi. Et je ne veux pas faire de compromis avec le monde. Amen. C'est difficile de dire Alléluia actuellement, je le sais. Mais vous pouvez le dire par la foi aussi, de temps en temps. Dites-le par la foi, ça fait rien, puisque le juste doit vivre par la foi. Vous pouvez dire Alléluia par la foi. Alléluia! Mes amis, vous qui avez reçu l'onction, vous qui recevez la bénédiction de Dieu, soyez courageux. Ayez un témoignage clair et net. Refusez tout compromis sous quelque forme que ce soit. Alors vous garderez l'onction. Sinon, vous perdrez et nous perdrons l'onction, qui que ce soit, en peu de temps. Pourquoi certains perdent leur onction? Voilà pourquoi. Ils jouent avec le monde, ils flirtent avec le monde. C'est pas si grave, ils ont toujours des raisons, il ne faut pas être fanatique. Quand on suit le Seigneur, il faut être un fanat pour le Seigneur. Amen. Et si vous n'êtes pas un fanat pour le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez-moi dire une chose, là-haut, il n'y a que les fanatiques de Jésus qui seront au ciel. Amen. Je sais, fanatique, c'est un peu un terme péjoratif, on peut penser. Mais écoutez-moi, il y a un bon, il y a aussi une bonne pensée. Un fanat, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur plus que toi. Amen. Je veux dire par là, donc, que c'est quelqu'un, tout en levant ses pensées plus ou moins un peu négatives qu'il y a dans ce terme, mais c'est quelqu'un avant tout qui aime le Seigneur de tout son cœur. Amen. Et qui refuse tout compromis avec le monde. Mes amis, vous repartez. Veillez à cela. Comment peux-tu garder cette puissance si tu continues encore à flirter avec l'un avec l'autre? Certains d'entre vous, il y a des amis qui ont une mauvaise influence sur vous et vous n'avez pas eu le courage de couper encore. Et mois après mois, année après année, il y a une personne qui a une mauvaise influence sur vous. Et vous, par sentiment, soi-disant par amour, vous ne voulez pas couper. Mais vous savez que cette personne, chaque fois que vous allez la voir, c'est une douche froide. Votre amour pour le Seigneur diminue. Et vous sentez comme une trahison en vous, comme si vous avez trahi le Maître. C'est pourquoi là aussi, il faut couper. Amen. Et c'est ainsi que vous garderez la puissance. Alléluia. Vous le savez comme moi, un moteur propre, c'est un moteur puissant. Amen. Un moteur encrassé, est-ce que c'est un moteur puissant? Un moteur encrassé, ça fait beaucoup de fumée, n'est-ce pas vrai? Beaucoup de fumée, beaucoup de chrétiens font beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée, mais pas de feu, pas de flamme. Pas de feu, pas de flamme. Allons un peu plus loin. Deuxième raison, nous perdons notre puissance lorsque nous acceptons le péché dans notre vie. Une autre raison importante encore. Pourquoi certains perdent leur puissance? À cause du péché. Et là encore, nous devons faire très attention. Vous savez, au fil des années, on en apprend dans le ministère. Et il y a une leçon que j'ai apprise, qui est celle-ci. En observant un certain serviteur de Dieu, qui avait dit une fois, comme ça, lorsque je l'écoutais, en parlant de certains qui avaient péché, et qui avait dit, moi, eh bien, cela ne m'arrivera jamais. Comme pour dire, vous voyez, c'est un peu l'homme qui compte un peu trop sur lui-même. Et en observant la vie de cette personne, elle a fait exactement ce qu'elle reprochait aux autres. Et même à un moment donné, vous savez ce qui se passe? Quand on a l'onction de Dieu sur nous, quand Dieu nous bénit et que nous caressons un certain péché en nous, vous savez la pensée qui nous vient? La pensée qui nous vient? On se dit, mais comment ça? J'ai l'onction? Il y a un petit quelque chose en moi qui n'est pas bien devant Dieu. Mais Dieu m'a quand même béni. J'ai prié pour un malade, il a été guéri. J'ai chassé des démons, le démon est parti. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, l'onction est sur moi. Et pourtant, je flirte avec une certaine personne qui n'est pas ma femme. Et pourtant, l'onction est là. Alors vous savez ce que la personne pense? Alors, autrement dit, Dieu n'est pas aussi sévère à l'égard du péché. Peut-être que moi, je suis quelqu'un de spécial devant lui. Il est peut-être intolérant à l'égard des autres, mais moi, comme j'ai beaucoup travaillé pour lui, comme je l'aime beaucoup, Peut-être qu'il me fait une petite faveur, moi. Et que peut-être pour moi, il n'est pas aussi sévère. Et plusieurs ont cru que parce qu'ils ont l'onction de Dieu sur eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent justifier le péché dans leur vie. Mais tôt ou tard, le péché les retrouvera. Et là, il y a une pensée solennelle, mes amis, n'est-ce pas vrai? Veux-tu garder l'onction? Tu dois fuir le péché. Tu dois haïr le péché. Un jour, à l'entrée d'une forêt, on a vu un grand arbre qui est tombé par terre. On s'est dit, mais c'est pas possible. Ce n'est ni l'orage, ni la tempête, ni l'ouragan qui a fait tomber cet arbre énorme. Alors plusieurs se sont inquiétés, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait tomber cet arbre? Que ni l'orage, ni la tempête, rien du tout n'a pu faire tomber ce géant de la forêt. On s'est approché et on a observé une chose. C'était un tout petit ver de rien du tout qui pendant des années avait rongé le tronc à l'intérieur. Pendant des années, le ver avait fait son œuvre. Pendant des années, le ver avait agi. Jusqu'au jour où ce ver a tellement affaibli le tronc qu'à la moindre pression, cet arbre est tombé. Ce que ni la tempête ni l'orage n'a pu faire, un petit ver l'a fait. C'est pas possible. Le géant est tombé devant un petit ver. Et malheureusement, c'est la vérité. Un petit péché que nous tolérons dans notre vie, un jour fera tomber les plus grands au milieu de nous. Amen. Les plus grands au milieu de nous. C'est pourquoi nous ne devons tolérer absolument rien du tout. Nous sommes dans un siècle de compromis, n'est-ce pas? On dit, le péché, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais noté ici, là, pour un autre, le message de l'autre jour. J'avais noté ici, voilà ce qu'on pense du péché. Vous voyez, l'homme l'appelle un accident, mais Dieu l'appelle une abomination. L'homme appelle le péché un défaut, mais Dieu l'appelle une maladie grave, incurable. L'homme l'appelle une erreur, Dieu l'appelle un ennemi. L'homme appelle le péché une faiblesse, Dieu l'appelle un entêtement. L'homme l'appelle une bagatelle, Dieu l'appelle une tragédie. L'homme l'appelle la liberté, tandis que Dieu l'appelle la rébellion. Mes amis, veux-tu garder l'onction? Est-ce que je veux garder l'onction? Nous devons veiller à cela. Le petit ver, ce que la tempête n'a pas fait dans ta vie, le petit ver le fera. Et ce petit ver, tu dois le détruire si tu sens qu'il y a un petit ver qui te ronge, qui t'affaiblit. Tu sais, je ne parle pas ici maintenant, attention, de péchés dont tu n'avais pas conscience. Parce que souvent, quand on parle à Dieu, on dit, ah oui, mais moi, alors il faut que je demande à Dieu de me révéler. Non. Il est question de quelque chose que tu sais. Tu sais que c'est mal et tu le fais quand même. Ne va pas commencer à dire, oh, mais je veux prier pour que le Seigneur me révèle. Non, il n'est pas question de ça. Quand on parle de péché, là, il est question d'un péché conscient que tu sais, que tu dois mettre de côté. Et tu ne le fais pas. Et que tu sais en toi, ça te ronge. Et ça t'affaiblit. Car la présence du Saint-Esprit chasse le péché. Ou si nous gardons le péché chassera le Saint-Esprit. Mais les deux ne peuvent pas vivre ensemble, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous devons veiller. Veillons, mes amis, veillons, s'il vous plaît. Pourquoi certains perdent leur puissance? Ils jouent avec le péché. Malheur à l'homme qui joue avec le péché. Mais bienheureux est l'homme qui fuit loin du péché. Amen. Tu seras peut-être considéré comme un vieux jeu, mais laisse-moi te dire, devant Dieu, tu es la personne qui sera honorée. Et ne l'oublie jamais, Dieu honorera celui qui l'honore. Mais il méprisera celui qui le méprise. Allons un peu plus loin. Troisièmement, Une troisième raison, nous perdons notre puissance lorsque nous refusons une vie de sacrifice et de renoncement. Je répète, nous perdons notre puissance quand nous refusons une vie de sacrifice et de renoncement. Acte 1.8, on l'a noté plusieurs fois pendant cette convention. Acte 1.8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le mot témoin, vous savez ce qu'il veut dire ? Dans le texte grec, le mot témoin veut dire martyr. Autrement dit, Jésus disait à ses disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes martyrs. Un martyr, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour glorifier son maître. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. Et si nous voulons garder l'onction, nous devons avoir cet esprit de sacrifice, de renoncement. Car le Saint-Esprit n'est pas donné pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit est donné pour qu'on se donne encore davantage aux autres. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour que tu te dises « Oh, combien je suis merveilleux !» comme un diplôme. Voyez, un diplôme de sainteté. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un diplôme. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour te vanter. Mais le Saint-Esprit t'est donné pour que tu puisses te donner aux autres. Alléluia! Et plus tu te donnes aux autres, plus Dieu se donnera à toi. Plus la puissance de Dieu viendra sur toi. Voilà pourquoi certains perdent leur puissance. Ils vivent une vie trop égoïste. La puissance qu'ils ont reçue, ils ne l'utilisent que pour eux-mêmes. Il n'y a aucun élément de sacrifice dans leur vie, aucun élément de renoncement. Ah, attention. À eux, ils ne veulent pas se sacrifier. Mais vous savez ce qu'on entend bien souvent dans la bouche de ces gens ? C'est toujours les autres qui doivent se sacrifier. Avez-vous remarqué ? En général, ceux qui refusent de sacrifier, ce sont ceux qui toujours disent « Oh oui, mais toi, tu aurais dû faire ceci, toi, tu aurais dû faire cela. » Vous voyez, les autres, ils doivent se sacrifier, mais eux, ça ne leur vient jamais à l'idée qu'ils doivent se sacrifier. Moi, je comprends ton problème, je comprends ton problème. C'est des gens qui ont facilement des révélations sur les autres. Et moi, je comprends ton problème. Puis ton problème, c'est un manque de renoncement, un manque de sacrifice. Mais eux-mêmes, les pires égoïstes qui puissent exister, et ils n'ont pas la révélation sur leur propre cas. Ils voient ce qui ne va pas là-bas, mais ils ne voient pas ce qui ne va pas en eux. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, mes martyrs. Autrement dit, la puissance pour nous-mêmes. Amen. Si tu veux donner aux autres ce que Dieu t'a donné, si tu es prêt à renoncer, Jésus lui-même a dit, celui qui sauve sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alléluia! Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia! Mais il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Mourir? Il faut que le grain de blé tombe en terre? Qu'est-ce que tu veux dire? Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que je tombe en terre, que je meure? Et que je disparaisse? Oui, disparaître? Mais c'est pas possible. Moi, je veux justement paraître. Ah, tu veux paraître? Ben, gloire à Dieu! Pour paraître, il faut disparaître. C'est pas possible, je vais perdre la tête, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Mais je veux paraître! Mais justement, si tu veux paraître, il faut disparaître! Ah bon? C'est le chemin? Mais c'est le chemin de Dieu! Amen! Une vie de renoncement et de sacrifice. Malheureusement, c'est quelque chose qui se perd dans les églises aujourd'hui. Il y a peu de chrétiens qui ont cet esprit de renoncement et de sacrifice. Mes amis, et voilà pourquoi ils ne gardent pas l'onction. Il ne garde pas la puissance. Quatrièmement, nous perdons notre puissance à cause de notre amour de l'argent. Là encore, on en a parlé un petit peu ce matin, mais puissance et amour de l'argent ne vont jamais ensemble. Si nous voulons garder la puissance de Dieu, il faut que nous soyons généreux. Amen. C'est John Wesley encore qui disait, gagne tout l'argent que tu peux, mais aussi donne tout l'argent que tu peux donner. Amen. Vous le savez comme moi, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous voulez garder la puissance, il faut être généreux. Avez-vous remarqué dans Acte 2, n'est-ce pas, ce qui s'est passé? Ils avaient mis tout en commun, n'est-ce pas? Il y a la pensée, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tout vendu et qu'ils vivaient tous au même endroit, ça c'est faux. Ils étaient tous dans leur maison, mais ce qu'ils avaient en trop et tout cela, il y avait un esprit de générosité qui s'est manifesté. Ils ne vivaient pas les uns sur les autres, comme pour détruire la cellule familiale. L'action du Saint-Esprit ne vient pas détruire des principes, des vérités bibliques, vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit, quand il agit, ne vient pas détruire la vie de famille de quelqu'un. Mais là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'égoïste qu'on est naturellement, on devient généreux après. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, on a envie de donner. Un jour, j'avais lu l'histoire d'un avare qui venait de se convertir en avare. Il avait dans son grenier toute une rangée de saucissons. Alors, il lui a dit, je vais lui donner un saucisson. Alors, il est allé là-bas, en haut. Il a regardé toute cette lignée de saucissons. Alors, il y en avait des petits et il y en avait des gros. Tout à coup, il était là en train de... Il y avait un combat. Lequel? Tout à coup, il entend une voix. Le petit. Donne-lui le petit. Le diable qui lui disait, donne le petit au pasteur, au prédicateur, donne-lui le petit saucisson. Alors lui, ça l'a surpris, ça l'a choqué un peu. Il a vu que c'était le diable. Et il a réagi en disant, Satan, tais-toi, si tu ne te tais pas, je lui donne tous les saucissons. C'est comme ça qu'il a pu faire taire le diable et qu'il a donné un bon saucisson au pasteur. Le petit. Hein? Soit notre cœur naturel, soit l'ennemi est là, le petit. 1 franc, ça lui suffit, 1 franc. Un jour, une maman avec son fils était allée à l'église. La maman, sortant de la réunion, a dit à son fils, qui était là, petit garçon, cette réunion aujourd'hui, gâchée. Vraiment, alors je suis déçu de cette réunion. Alors... Son enfant lui dit, « Maman, mais combien tu as mis à la collecte ?» Eh bien, elle a dit, « J'ai mis 1 franc. »« Eh bien, pour 1 franc, voilà tout ce que tu as eu. Voilà. »« Tu as mis 1 franc ? Eh bien, tu as eu pour 1 franc de bénédiction. »« Pour 1 franc, elle a eu 1 gramme de bénédiction. »« Mais elle s'attendait pour 1 franc à avoir 1 tonne de bénédiction. » Comme beaucoup d'entre nous le faisons. Avec 1 franc, nous voulons 1 tonne de bénédiction. Tu as eu ce que tu voulais. Car notre attitude à l'égard de l'argent révèle notre véritable maturité spirituelle et notre véritable condition spirituelle. Amen. Ceci est très important. Un homme rempli du Saint-Esprit sera toujours quelqu'un de généreux. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit et qui est prêt de ses sous. Vous avez rencontré quelqu'un comme ça, il faudra le prendre en photo ou le faire venir ici. Parce qu'il faut que je le voie, je discute un petit peu avec lui. Non, mon ami, si nous sommes encore près de nos sous, c'est que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui l'est vraiment, c'est quelqu'un qui est généreux. Amen. Qui est généreux. Bien sûr, il doit donner avec sagesse, naturellement. Mais je veux dire, cet état d'esprit généreux, qui veut faire du bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà un principe divin. Et Jésus, partout où il allait, il ne disait pas aux gens, il ne pensait pas en lui-même. Qu'est-ce que je peux recevoir de ces gens? Partout où il allait, il n'avait qu'une seule pensée. Qu'est-ce que je peux leur donner? Amen. Partout où il allait, qu'est-ce que je peux leur donner? Vous voyez, jamais il avait à l'esprit de dire, qu'est-ce que je peux recevoir de ces gens? Jamais. Partout où il allait, qu'est-ce que je peux leur donner? Et à celui qui donne, il recevra toujours. Amen. Alléluia. Il y a là un principe spirituel. Ce que vous donnez, c'est ce que vous gardez réellement. Et ce que vous gardez, c'est ce que vous perdez. Donnez le meilleur. Je pense maintenant à une autre petite histoire. C'était une dame qui était dans sa maison, et un jour de pluie. Tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Comme il pleuvait d'un seul coup à... très fortement. Un monsieur frappe et demande à la dame, s'il vous plaît, la pluie vient de me surprendre, est-ce que vous avez un parapluie? On vous le ramènera demain, le parapluie. Ah bon, elle regarde le monsieur. Qui c'est celui-là? Bon, elle rentre. Elle avait plusieurs parapluies encore là. On ne sait jamais. Et il y avait un neuf et un vieux parapluie. Elle s'est dit, le neuf, ben non, je ne sais pas qui c'est. Et s'il ne me ramène pas le bon parapluie? Et s'il ne me ramène pas mon parapluie? Je vais lui donner le vieux, comme ça, ce sera perdu quand même. Ça fait, c'est... Alors elle dit, avec un vieux parapluie, elle dit, voilà. Voilà. Et le monsieur a été poli. Merci, madame. Demain, je vous le ramènerai. Ah, bien d'accord. Elle est rentrée. Pff, certainement, parapluie, maintenant, jamais je vais le revoir. Le lendemain, à la première heure, une voiture avec une Mercedes arrive devant la porte. C'était un envoyé du roi qui arrivait. Il sort de la voiture et amène le parapluie. Et cet employé a dit, voilà le parapluie que vous avez prêté à Sa Majesté le Roi hier. Le roi! C'était le roi qui était là! Elle est rentrée! Oncle! Qu'est-ce qu'il va penser de moi, le roi? Si je lui avais donné au moins le bon parapluie, le parapluie qui était le meilleur! Elle avait honte, honte d'elle-même. J'ai donné le plus mauvais parapluie au roi. Quelle honte! Qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Et bien souvent, nous faisons ces mêmes calculs avec Dieu, n'est-ce pas, mes amis? Pour le Seigneur. Et souvent, quand certaines personnes donnent certaines choses, par exemple pour la mission, ce sont tous les habits, presque pourris à la maison, qui ne peuvent plus mettre, qui sentent mauvais, et qui envoie ça à la mission, en disant que c'est bien bon pour les autres. On donne le moins bon. Ne l'oublions pas, ce que nous faisons à l'un de ces petits, c'est à Dieu que nous le faisons. Il y a certains chrétiens qui ont pris l'habitude, quand ils faisaient une offrande à un serviteur de Dieu, je ne parle pas pour moi-même ici, je parle d'une façon générale, quand ils faisaient un don à un serviteur de Dieu, ils donnaient toujours les meilleurs billets, les billets les plus neufs. Pas le billet à moitié tordu, pourri, à moitié cloué, à moitié sale. C'est bon pour lui. Mais ne l'oublions pas, ce que nous donnons au serviteur, ou à un chrétien, ou à un pauvre, c'est à Dieu que nous le donnons. Nous devons donner le meilleur au Seigneur. Amen. Ça, c'est très important. Très important, mes chers amis. Cinquième raison, nous perdons notre puissance à cause de l'orgueil. Voilà une autre raison. Nous perdons notre puissance à cause de l'orgueil. Et Paul avait ce problème-là. Il le dit lui-même à l'égard de son écharde, à cause de l'orgueil, pour que je ne sois point enflé d'orgueil. Il m'a été donné cette écharde dans la chair. Un ange de Satan est venu pour me souffleter. Dieu voyait cette pensée orgueilleuse qui était dans le cœur de son apôtre. Et il fallait qu'il envoie cette écharde pour le garder dans l'humilité. Car un homme rempli du Saint-Esprit et un homme orgueilleux ne vont pas ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Et combien ont perdu leur onction à cause de l'orgueil? À cause de l'orgueil. Que Dieu nous préserve de cela. Si Dieu te bénit, donne toujours la gloire à Dieu. Amen. Donne toujours la gloire à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donnons-lui toujours toute la gloire. Ceci est important. Combien de chrétiens, à peine sont-ils bénis, ont-ils amené une âme, ont-ils un don spirituel, ont-ils prié pour un malade qui a été guéri, vous ne pouvez plus leur parler. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils ont été utilisés par Dieu, mais vous ne pouvez plus leur parler. Vous ne pouvez plus les aborder. Vous devez demander un rendez-vous, sinon jamais vous pouvez leur parler. Ah, c'est que maintenant, ils sont devenus des messieurs. Dieu les a utilisés, vous comprenez? De maîtres, ils sont devenus, de serviteurs, ils sont devenus des maîtres maintenant. Et malheureusement, il y en a trop comme cela. Voilà pourquoi beaucoup perdent leur onction Si tu veux et si je veux garder la puissance, nous devons toujours lui donner toute la gloire. Amen. Toujours, toujours, mon frère, ma sœur, nul n'est à l'abri de cet orgueil qui détruit la vie de beaucoup de chrétiens. Que Dieu nous préserve de cela, donnons-lui toujours toute la gloire. Amen. Alléluia. Sixièmement, nous perdons notre puissance lorsque nous négligeons notre vie de prière. Lorsqu'il n'y a plus de vie de prière, ou une vie de prière pratiquement inexistante, alors vous perdrez tôt ou tard votre puissance. Acte 6, les premiers apôtres avaient cette tentation. À un moment donné, il y avait tellement d'activités, il y avait tellement de bénédictions, voyez-vous, il y avait tellement de gens qui venaient, on devait leur donner à manger, les pauvres étaient là, tellement d'activités, que les apôtres eux-mêmes, ils commençaient à servir aux tables. Et ce n'était pas mal de servir aux tables, mais ils le faisaient aux dépens de leur vie de prière. Et ils ont dit aux diacres et aux autres chrétiens, il n'est pas convenable pour nous de servir aux tables et d'abandonner la prière et le ministère de la parole. C'était un danger très grand pour les apôtres. Et ils ont choisi des diacres. Et alors, après, il est dit, il faut que nous-mêmes, nous nous adonnions à la prière et à la prédication de la parole. Et voilà pourquoi ils ont gardé l'onction, parce qu'ils ont gardé l'esprit de prière. Amen. Mon frère, ma sœur, sans prière, pas de puissance. Sans prière, pas de ministère. Sans prière, pas d'onction. Si nous cessons de prier, nous perdons l'onction. Nous perdons la puissance. Pourquoi certains perdent la puissance? Même sans faire des choses mauvaises, simplement dans les activités de l'Église. Nous pouvons tellement faire dans l'Église que nous n'avons plus le temps de passer du temps devant le Seigneur. Et ça, c'est un danger qui nous guette tous. Et voilà pourquoi, dans l'Église même, nous pouvons perdre notre onction et notre puissance. Et nous choisissons cette diacre qui serviront aux tables. Mais nous, nous passerons du temps dans la prière et dans la prédication de la parole. Amen. Alléluia. Le plus petit d'entre nous ici peut garder l'onction dans sa vie, peut être puissant, si je l'ai un homme ou une femme de prière. Le plus petit d'entre nous ici, s'il prie, s'il cherche la face de Dieu, Dieu l'utilisera et Dieu maintiendra cette onction sur lui. Un jour, 5 étudiants sont venus le dimanche matin à voir l'église du fameux pasteur Spurgeon en Angleterre, à Londres. Et ils sont venus voir un peu ce qu'il y avait là dans cette église. Et quelqu'un est venu les recevoir, ils ne savaient pas que c'était Spurgeon. Et ils ont dit, on veut voir un peu l'église ici. La réunion n'avait pas encore commencé. Et Spurgeon a pris ses 5 étudiants et il leur a fait visiter un peu l'église. Et ensuite, il les a descendus au sous-sol. Et là, en ouvrant la porte, ils ont vu qu'il y avait plusieurs centaines de chrétiens qui priaient. Et Spurgeon a dit à ces jeunes gens, voilà ici la chaudière du chauffage central de l'église. La chaudière, c'est la chaudière que tu es en train de voir là. C'est là qu'il y a le feu. Ils sont en train de prier pour que Dieu bénisse la réunion tout à l'heure. Et voilà pourquoi le ministère de Spurgeon était un ministère de puissance. Parce qu'il y avait de la prière derrière. Amen. Il y avait de la prière. Il y avait de la prière. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les serviteurs de Dieu. Amen. Priez, priez, s'il vous plaît. La Pentecôte est un exemple type. Pourquoi il y a eu 3000 conversions? Nous, souvent, nous disons, une prédication, 3000 conversions. C'est vrai. Mais c'est une demi-vérité, c'est pas toute la vérité. Une prédication, 3000 conversions, c'est vrai, mais avec 119 chrétiens remplis du Saint-Esprit et qui priaient derrière Pierre. Amen. Alléluia. C'était pas 119 qui étaient là assis. Assis, allez Pierre, prêche. On va bien voir si tu vas faire un bon serment. On va bien voir si tu prêches bien, toi, le pécheur. Tu dois faire des drôles de fautes, toi. Un marchand de poissons. Non, il n'était pas là pour le critiquer. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils louaient Dieu. Et pendant que Pierre prêchait, Seigneur, bénis-le, remplis-le. Alléluia, il le tenait, il priait pour lui et il était littéralement soutenu. Et le petit pécheur de rien du tout, l'homme qui avait renié son maître devant une jeune fille, s'écrie maintenant devant la multitude, vous avez renié le saint et le juste. Pourtant lui, il avait renié le Seigneur. Mais c'était un homme transformé. La croix avait passé en lui, le Saint-Esprit l'avait rempli et lui avait enlevé toute sa faiblesse, tous ses échecs. Et la prière de l'Église était là pour le tenir et le soutenir. Et une seule prédication a eu 3000 âmes comme fruit. Amen. Alléluia. Mes amis, la prière est indispensable. Sans prière, il n'y a pas de puissance. Vous ne pouvez pas garder la puissance, c'est pas possible. Et je termine maintenant. Septième raison, nous perdons notre puissance en négligeant la méditation de la parole de Dieu. Acte 6, 4, toujours, les mêmes apôtres ont dit, nous allons nous adonner à la prière et au ministère de la parole. Beaucoup, on l'a entendu tout à l'heure, sont remplis du Saint-Esprit, mais il n'y a pas la parole de Dieu dans leur cœur. Il n'y a pas la méditation, il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour mettre la Bible de côté, mais c'est pour obéir encore davantage à la Bible. Amen. Et écoutez-moi bien, chers amis, vous n'avez pas besoin de révélation spéciale pour l'obéir à la parole de Dieu. Il y a des passages clairs et nets dans la Bible qui vous disent ce que vous devez faire. Et vous savez ce que certains disent? Même devant des passages écrits noir sur blanc, moi j'attends que Dieu me révèle quelque chose. Tu peux attendre 100 ans et tu n'auras pas la révélation. Dieu ne te donnera pas de révélation sur quelque chose qui est écrit clairement, simplement. Et il y en a qui attendent la révélation. J'attends que Dieu me montre. Comment Dieu te montre? Il l'a montré il y a 2000 ans, c'est écrit. Quel est ton problème? Ah ben voilà, ah ben ouais, il est là pour ton problème, c'est écrit. Prenons l'exemple du baptême encore une fois. Combien de fois j'ai entendu cela moi? Avec certains par exemple. Moi j'attends que Dieu me montre pour que je sois baptisé. Moi ça me fait frémir, ça me fait bondir. Mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te montre? Il l'a déjà montré, c'est écrit là-dedans. C'est écrit dans la parole. Il y a 2000 ans, c'est écrit. La révélation, elle est là. Et il ne faut faire qu'une chose, il faut obéir. Amen. Dieu ne te montrera pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole. Si tu veux obéir, la révélation est là. Il n'y a qu'à obéir et faire sa volonté. Amen. Alléluia. Pourquoi nous perdons la puissance? Parce que nous ne méditons pas assez la parole. Et ils allèrent partout prêchant la parole. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mes amis, Dieu n'a promis de confirmer qu'une chose, sa parole. Pas nos idées, pas vos traditions, pas l'enseignement d'une église. Il n'a promis de confirmer qu'une chose, la parole de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, plus vous prêchez la parole de Dieu, plus la puissance de Dieu se manifestera dans votre vie et dans votre ministère. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu dans votre vie, dans votre témoignage, dans votre ministère, alors il n'y aura pas de puissance. Vous verrez que cette puissance ira en diminuant. Il est dit dans les actes des apôtres que la parole de Dieu se répandait en force et en puissance. Il y a une chose qui se répandait dans les actes des apôtres, c'était la parole de Dieu. Voyez-vous? C'était la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on répand aujourd'hui? On répand les idées de l'un, les idées de l'autre, la religion de Pierre, la religion de Paul. Et la parole de Dieu est inconnue. Voilà pourquoi nous perdons la puissance. Dieu n'est jamais lié avec les traditions humaines. Dieu n'est engagé qu'avec une chose, avec sa sainte parole. Alléluia! Ils prêchèrent la parole et Dieu confirmait cette parole. Mais si tu ne prêches pas la parole, Dieu ne confirmera pas cette parole. Mais plus on la prêche, plus on la médite, plus on en est rempli, plus on est rempli de la parole de Dieu, plus on est rempli de la puissance de Dieu. Amen. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Combien de chrétiens sont faibles parce qu'ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu? La Bible nous dit aussi, soyez remplis de la parole de Dieu, pas seulement du Saint-Esprit. En étant remplis de la parole de Dieu, vous serez remplis de la puissance de Dieu. Les deux vont ensemble. Mais dites-moi quelqu'un qui ne médite pas sa Bible. Montrez-moi quelqu'un qui ne lit pratiquement jamais sa Bible. C'est quelqu'un qui n'a plus de puissance, c'est terminé. Mais montrez-moi quelqu'un qui la médite et qui en fait sa règle de conduite. Dieu bénira cette personne. Car Dieu est là pour confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Mes amis, notre épée, c'est la parole de Dieu. Comment peux-tu combattre le bon combat sans avoir d'épée dans ta main? Voilà pourquoi certains sont faibles. Ils se battent avec le diable sans épée. Tu ne peux pas te battre avec les poings avec le diable. Il est plus fort que toi, il est plus rusé que toi. Il n'y a qu'une chose qui détruit le diable, c'est l'épée de la parole de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Alors méditons cette parole. Le plus faible d'entre nous ici peut devenir très fort. Vous ne devez pas seulement dépendre de la prédication d'un serviteur de Dieu, mes amis, ou de votre pasteur. Vous devez méditer vous-même la parole de Dieu. Trop de chrétiens dépendent de la prédication du pasteur. La prédication du pasteur est là pour compléter ce que Dieu vous donne personnellement dans votre méditation personnelle. Mais si vous n'avez pas de méditation personnelle, alors il n'y aura pas de puissance. Ce sont ceux qui méditent la parole, qui s'en nourrissent, qui expérimenteront la puissance, et cette puissance restera sur eux. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous courber quelques instants maintenant, et ensuite nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous te louons, et nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions pour le message que tu nous adresses. Tu ne veux pas que nous perdions notre puissance, mais au contraire, tu veux que nous la gardions et que nous puissions ainsi être une bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons obéir à ta voix et faire toute ta volonté. Nous voici, Seigneur. Nous voulons obéir sur tous les points où tu nous as parlé, car c'est par amour que tu nous parles et c'est par amour que tu nous exhortes. Nous voici, Seigneur, ayons un moment de prière maintenant, silencieuse, devant Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous devez vous reconsacrer au Seigneur. Au travers de ces 7 points, Dieu t'a révélé peut-être ta faiblesse, les manquements, les mauvaises habitudes, les fuites qu'il y a en toi. S'il te plaît, s'il vous plaît, mes amis, devant Dieu, dites-lui ce qui ne va pas et dites-lui que vous voulez changer. Dites-lui que vous voulez boucher ces trous dans votre vie spirituelle. Plaçons-nous devant lui, dites: Seigneur, dans tel ou tel domaine tu m'as parlé, je veux changer. Je ne veux pas retourner la même personne. Je ne veux pas toujours perdre ta puissance et dépendre toujours d'un autre pour vivre ma vie chrétienne. Je veux personnellement vivre ma vie chrétienne avec toi, être renouvelé dans ma communion personnelle avec toi. Laissons-nous sonder par le Seigneur. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'attristez point le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, mais au contraire, réjouissons le Saint-Esprit en obéissant à la parole du Seigneur et en glorifiant notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la louange et l'adoration de nos vies. Amen.